Salam alaikum, nous nous retrouvons pour le cinquième épisode de la série Portrait du mois sur Ethic Media, le média dédié aux jeunes de la communauté. Nous recevons aujourd'hui le prédicateur Mehdi d'Islam Mag. Salam alaikum.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Donc ravi de pouvoir vous recevoir. Vous êtes un prédicateur qui est beaucoup reconnu des jeunes de la communauté. Vous êtes notamment visionné sur des plateformes numériques et vous avez un site internet qui a été actif pendant longtemps, qui était celui d'Islam Mag, d'où vous tenez votre nom. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu davantage de votre parcours, comment vous en êtes arrivé jusqu'ici et pourquoi pas de vos projets actuels ou à l'avenir?
Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. En premier lieu, merci de cette invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Et déjà, dû à la première question, je vois que, alhamdulillah, le langage est élaboré et donc je ne pense que du bien d'Ethic Media et ça me permet vraiment de pouvoir échanger avec vous de la meilleure manière qui soit. Alors, en premier lieu, comment je suis arrivé à là? Parce que j'étais tout simplement islamophile. J'étais amoureux de l'islam. Et étant donné qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de support en français, que ce soit ne serait-ce que dans la da'wa ou même ailleurs, j'ai dû justement m'imprégner de la langue arabe et de toute la littérature inhérente à la langue arabe pour ensuite la traduire soit au début à mes amis, à mes proches, à mes petits frères. Et de fil en aiguille, ben voilà, c'est le frère qui parle de religion en français, qui parle comme nous, qui parle le même langage que les jeunes. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à être sur le devant de la scène.
Donc, Mashallah, et en effet, les jeunes constituent vraiment une très large part de votre public. Vous en parlez énormément. Vos rappels tournent beaucoup autour des sujets qui touchent les jeunes. Finalement, est-ce que cette vocation à parler aux jeunes, c'est quelque chose que vous avez toujours apprécié? Ou alors c'est parce que vous considérez que c'est une part de la communauté musulmane qui est la plus importante? Pourquoi est-ce que vous expliqueriez ce choix finalement d'auditoire plutôt qu'un autre?
Tout simplement parce que les jeunes, c'est le futur. Les jeunes, en fait, sont l'espoir d'un changement. Et les jeunes également sont ceux qui donnent beaucoup de leur temps parce qu'ils en ont en premier lieu. Et c'est surtout eux qui également, avant d'être, on va dire, broyés par le système de la vie, ils sont porteurs d'espoir. Ils ont une volonté, un courage, des ambitions que ceux qui se sont installés malheureusement dans la vie n'ont plus. Donc lorsqu'on parle aux jeunes, on parle en fait à un espoir de changement. Et ça, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et d'ailleurs, ce n'est pas simplement que moi, mais lorsqu'on veut faire, par exemple, de la publicité ou lorsqu'on essaye de vouloir exprimer quelque chose sur Twitter, on cible toujours les jeunes parce que la dynamique et l'enthousiasme est chez les jeunes. Et de manière très générale, j'ai toujours été jeune dans ma tête. Je n'ai pas vieilli. Donc, lorsque je parle avec eux, je me sens tout de suite à mon aise.
D'accord. Et donc, Mashallah, vous parlez aussi de... Vous avez commencé donc, à vous orienter vers la religion lorsque vous avez eu ce besoin d'apprendre l'arabe. Donc, parce que vous dites, à l'époque où vous avez commencé à cheminer, c'était les seules ressources qui étaient disponibles, en fait, étaient en arabe. Est-ce que vous pensez que c'était finalement préférable, justement, cette époque où peut-être la science était plus difficile à atteindre, qu'aujourd'hui, où grâce aux plateformes digitales, à énormément de ressources, de livres, de rappels qui sont traduits, finalement, les jeunes ont accès à tout, mais est-ce qu'ils ont cette capacité déjà de profiter de tout? Est-ce que c'était pas préférable une époque où finalement, il fallait aller chercher la science plutôt qu'elle soit autant exposée et facile d'accès?
En regardant dans la réalité concrète, très peu de personnes ont fait l'effort que j'ai fait. La demande de savoir implique forcément un effort. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il n'y a pas des milliers de Mehdi, Islam Mag, de Nader Abouhanes ou de Vincent Souleyman. C'était des personnes qui ont fait des efforts à un moment donné, qui ont fait que maintenant ils émergent. Et donc, vous remarquerez que c'est une petite élite. C'est pas, ça ne court pas les rues. Oui. Et donc, arriver à cet état des lieux, bah, ça implique que nous devons vivre avec notre temps. Et le timing d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est parfait. Donc, intégrer toutes les plateformes, on ne l'a pas décidé, mais c'est ce qu'il faut faire. Et je pense que, wallahu ta'ala a'lam, si notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, ou même les compagnons devaient être là, ils auraient usé et utilisé de toutes les plateformes pour pouvoir essayer d'atteindre un maximum de personnes. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit des prophètes et messagers qui marchaient, ils marchaient dans les marchés, c'est-à-dire ils allaient prêcher dans les endroits là où il y avait du monde. Donc c'est quelque chose en fait qu'on fait de manière tout à fait naturelle. Et encore une fois, c'est parce que j'étais islamophile qui c'est cette envie d'apprendre plus sur ma religion, l'amour que j'ai pour Allah, son prophète et son messager qui m'ont permis justement d'être là où je suis. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui m'anime. Je ne recherche pas ni la visibilité ou quoi que ce soit. Les discours matchent par une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît, par un secret qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ça se passe avec certains de ses serviteurs. Et j'espère bien être au service de sa majesté, de mon Seigneur, de mon grand amour Allah subhanahu wa ta'ala pendant encore de nombreuses années.
Et donc c'est très intéressant lorsque vous parlez d'état des lieux, donc comme vous le dites aujourd'hui, le paysage finalement de la da'wa, ça va être quelques figures qui ont fait cet effort finalement pour cheminer vers la science. Justement, en parlant d'état des lieux, vous qui côtoyez du coup les jeunes au quotidien, vous avez notamment fait une vidéo avec Nader Abou Enes où vous alliez à la rencontre de jeunes des quartiers défavorisés, où vous leur parliez d'islam. Qu'est-ce que vous diriez si on vous demandait de faire un état des lieux général de la communauté musulmane actuellement?
L'état des lieux, il est identique à toutes les générations qui nous ont précédées. À l'époque, il y avait les réseaux sociaux, non, mais il y avait les livres. Il y avait les bons et les mauvais livres. Il y avait également l'époque du VHS, des cassettes vidéo. Il y avait les bonnes et les mauvaises cassettes vidéo. Il y avait également les stations radio. Il y avait les bonnes et les mauvaises stations radio. Et en fait, il y a toujours le choix qui a été proposé. Et donc, le fait d'aller parler aux jeunes, eh bien, c'est une proposition qui est faite. Et in fine, et c'est la tradition d'Allah dans sa création, il y aura toujours un choix qui va être fait par la personne concernée. Et ça, c'est très important. Nous remarquons aujourd'hui qu'on est en train de consommer l'islam comme on consommerait de la musique ou comme on consommerait un match de foot. On peut voir sur un film TikTok ou Instagram un rappel et quatre autres vidéos qui n'ont absolument rien à voir. C'est malheureusement, comment dirais-je, dans l'air du temps. Mais ce qu'on espère plus que tout, c'est que lorsqu'on essaye de voir une vidéo de rappel, que ça puisse juste initier cette petite étincelle qui fera en sorte que derrière, il puisse y avoir un suivi. C'est comme du marketing. On fait une publicité pour pouvoir intéresser le prospect, pour pouvoir aller un peu plus loin. Et bien, on utilise ces plateformes par rapport à cette chose-là. Et donc, lorsqu'on va voir les jeunes dans les quartiers, lorsqu'on essaye de discuter avec eux, ben, c'est juste pouvoir espérer être un vecteur d'initiation à l'islam pour que ces derniers puissent après voler de leur propre aile selon leur choix. Le choix est très important.
Ben justement, c'est très intéressant ce que vous dites. Finalement, lorsque vous parlez de la jeunesse, est-ce que votre... Finalement, ce que vous avez pu voir finalement de cette communauté générale, de cette communauté musulmane, pardon, notamment au niveau de la jeunesse, est-ce que ça obéit finalement à ces descriptions qu'on a en général, que l'on ressasse beaucoup, qui va être que la jeunesse aujourd'hui n'a plus de, entre guillemets, n'a plus la capacité de discerner le vrai du faux, ou ne serait-ce que d'être attirée par des choses intéressantes, comme quoi elle serait surtout obnubilée par les jeux vidéo, par des tendances comme vous dites YouTube, Instagram, etc. Est-ce que vous pensez que réellement c'est la réalité du terrain ou simplement un discours assez pessimiste sur la jeunesse, comme les anciens font souvent?
J'ai donné déjà l'élément de réponse dans la question. Et lorsque j'ai dit qu'il y avait toujours le choix, c'est qu'en fait, la jeunesse, justement, elle va elle-même faire le choix. Par exemple, on sait, et cet adage, il est extrêmement connu, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et ce qu'on en regarde à chaque fois, c'est lorsqu'il va y avoir un fait divers, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, c'est le fils d'un tel ou la fille d'un tel qui a fait telle ou telle bêtise. Mais en général, lorsqu'on fait du bien, on n'en parle pas. Lorsque les gens réussissent, on n'en parle pas. Et donc, on va toujours pointer du doigt là où ça va mal. Mais si toute la population française était assassin, ben, on ne parlerait plus de l'assassinat comme on en pourrait parler aujourd'hui. Ça reste toujours quelque chose de gravissime, parce que ça reste toujours une minorité. Il y a à peu près 30 000 personnes dans les prisons françaises, d'accord? C'est une minorité devant les millions de personnes qui vivent à l'extérieur. Et pourtant, les peines et les délits, on en voit, ils sont sanctionnés par la prison. Donc encore une fois, on va toujours montrer du doigt ce qui ne va pas, mais on ne montrera jamais du doigt ce qui va bien. Et moi qui vis au sein de la communauté musulmane et surtout parmi la jeunesse, il y a énormément de personnes qui sont dans l'école publique, l'école de la République, l'école de Marianne, et ils ont réussi en parallèle à apprendre le Qur'an. Ils ont réussi en parallèle à réussir, mashallah, là où beaucoup n'auraient pas pensé. Et ça, c'est des exemples qui sont concrets. D'ailleurs, qu'une jeune musulmane comme toi m'interroge montre très bien qu'il y a un dynamisme au sein de la jeunesse musulmane qui existe. Mais juste, on ne va pas parler de toi parce que tu rentres dans le cadre, tu es quelqu'un de bien. On va parler simplement de celles et ceux qui font n'importe quoi. Et donc, encore une fois, alhamdoulilah, rabbil alamin, il suffit juste de valider l'essai et de faire en sorte, justement, de toujours faire ce travail de fond qui ne fait pas beaucoup de bruit. Ce travail, pardonnez-moi, de la majorité silencieuse, parce que c'est dans ce travail-là, silencieux, dans l'endurance, dans l'abnégation, dans le courage, ce travail de longue haleine qui va faire en sorte que la société va changer. Et donc, même si on n'en parle pas, il ne faut pas désespérer et broyer du noir. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait cette question de choix. Au premier lieu, on pense que tout va mal parce qu'il n'y a que ça qui est montré dans les réseaux ou dans les informations, mais ce n'est pas vrai. Il y a une majorité silencieuse qui fait énormément de bonnes choses. Et alhamdoulilah, rabbil alamin, le fait que tu m'interroges aujourd'hui et le fait que nous soyons reconnus par des millions de personnes sur Internet et dans la rue indique que l'islam a pleinement sa place. Et ça, c'est une réussite, alhamdoulilah.
Ben, mashallah, justement, ce que vous dites fait très bien écho à la question suivante. Justement, donc, la prédication implique... vraiment beaucoup de sacrifices, j'imagine également, notamment le fait d'être reconnu et d'avoir cette visibilité, même si, comme vous l'avez dit, vous ne la recherchez pas, mais c'est un peu une des conséquences lorsque vous essayez que votre message atteigne le plus large nombre de personnes. Et cette visibilité, justement, ça peut faire peur, notamment lorsqu'on voit que les prédicateurs peuvent parfois faire l'objet de pression, que ce n'est pas forcément le travail le plus simple. Qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui auraient peur de se lancer dans la voie de la prédication pour les conséquences que ça pourrait leur apporter ?
C'est une excellente question parce qu'en fait, on ne se lance pas dans la voie de la prédication. Ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. Parce que j'en ai parlé tout à l'heure pendant notre entretien avec les jeunes. On ne pense pas un jour pouvoir parler au monde. On ne pense pas être un jour directrice d'école. On ne pense pas être un jour monté sur le mimbar et parler de telle ou telle chose. Ce n'est pas des choses qu'on choisit. Allah subhanahu wa ta'ala a ses desseins, a ses objectifs pour ses serviteurs. Et nous, par rapport, inshallah ta'ala, à notre sincérité ou pas, on va se retrouver au devant de la scène. Maintenant, c'est comment assumer la place qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Parfois, ils vont l'utiliser en changeant d'intention et utiliser justement cette reconnaissance pour faire de l'argent, pour essayer d'exister socialement, etc., etc. Et d'autres, ils vont rester simplement humbles et modestes en essayant de toujours faire ce travail de fond sans rechercher la reconnaissance des créatures, mais espérant la reconnaissance du Créateur suprême, Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, comment faire pour éviter cette chose-là? De toujours renouveler son intention, de toujours faire en sorte de se rappeler que nous ne sommes rien, que nous étions rien et que nous retournons à rien. Et lorsqu'on sait que nous avons une relation particulière avec Allah, qui encore une fois, j'aime parler de grand amour, eh bien, alhamdoulilah, rabbil alamin, peu importe les petits désagréments, parce que je dirais toujours que c'est des petits désagréments, peu importe les pressions, la seule chose qu'on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est al-thabat, le fait d'être ferme dans ses engagements, et de se rappeler toujours de cette invocation qu'Allah a consignée dans le Coran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Oh Allah, ne dévie pas nos cœurs après nous avoir guidés. Tu te rends compte, il y a une notion de guider et il y a une notion de déviance après derrière. Et Allah nous demande de faire cette invocation parce que si nous sommes arrivés, inshallah ta'ala, nous espérons être sur le droit chemin. Si nous sommes arrivés justement sur ce droit chemin, c'est uniquement par une grâce infinie de notre Seigneur Allah et par une infinie bienveillance de sa part. Et de la même manière que l'on peut être ici, eh bien on peut très rapidement en sortir et les exemples sont légion. Donc de bien faire attention, de toujours renouveler son intention et de se dire en fait qu'Allah n'avait pas besoin de nous et qu'il peut nous effacer du jour au lendemain. Et les cas comme Rachid Adash qui sont morts jeunes ou comme l'imam al-Nawawi à 42 ans qui est mort également très jeune ou d'autres éminents compagnons et d'autres éminents savants qui sont morts jeunes, Allah nous montre par ces exemples-là qu'il n'a pas besoin de nous mais qu'il veut simplement nous utiliser par son immense grâce pour nous faire honneur d'être un de ses instruments. Et lorsque tu sais en fait que tu ne vaux pas grand-chose, bah c'est facile de pouvoir continuer là-dedans.
Je vous remercie comme vous conseille. Également, ce que l'on peut voir au niveau de la da'wah en France, c'est qu'avec justement la généralisation des réseaux sociaux, etc., enfin la généralisation de la da'wah sur les réseaux sociaux, la jeunesse notamment vit ce qu'on appelle énormément d'infobésité, c'est-à-dire beaucoup d'informations, les scandales, les mises en garde. Et finalement, même dans le dîn, quand il va s'agir de faire une démarche pour essayer de chercher le dîn sans avoir beaucoup d'indicateurs malheureusement, eh bien on se retrouve là aussi dans un océan d'informations différentes, beaucoup d'indignation aussi, beaucoup de va-et-vient. Comment est-ce que vous conseilleriez à un jeune vers qui se tourner en fait, ou plutôt vers quoi se tourner pour essayer de s'y retrouver?
Déjà, de ne pas apprendre sa religion sur les réseaux sociaux. Et donc si une personne est influencée par les réseaux sociaux, je ne leur donne pas beaucoup de crédit. Parce que si tu veux faire quelque chose en profondeur, tu veux devenir chirurgien, ingénieur, pilote d'avion, tu n'apprendras jamais sur les réseaux sociaux. Donc si ton information te vient des réseaux sociaux, je leur ai dit salam alaikum, et ça y est, à quoi ça sert de perdre du temps avec ces gens-là? Sache que c'est le levain qui fait monter la pâte. Ce sera toujours une élite qui va changer en fait la masse. Et donc si tu vois encore une fois le jeu de la médiatisation des réseaux sociaux, personne ne t'acceptera comme tu es. Tu seras toujours critiqué. Le prophète a été critiqué, Allah a été critiqué, Omar a été assassiné, Othman a été assassiné, Ali radiallahu anhum a été assassiné. À un moment donné, tu ne feras jamais l'unanimité. Et lorsque tu prends le terrain de la da'wah, de la prédication, ou même du savoir, ou même de l'enseignement, eh bien forcément, tu vas être critiqué. Un professeur va être critiqué par certains parents et adulé par d'autres. Une directrice va être critiquée par certains parents et adulée par d'autres. Peu importe, en fait, tu ne feras jamais l'unanimité. Et si on arrive à comprendre cette chose-là, et de toujours avoir comme objectif de travailler encore une fois dans l'ombre, dans l'endurance, sans relâche, sans regarder le résultat immédiat, mais d'avoir une vision noble et surtout une anticipation sur le long terme, eh bien là, t'avances. Et alors qu'ils ont parlé, et alors ils ont eu des mises en garde. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a été frappé et on l'a mis dans une geôle. L'imam Malik a été frappé, il a été également humilié sur un âne. On lui a rasé les cheveux. L'imam Shafi'i également, il a été frappé. Des immenses savants, à leur époque, on ne les a pas respectés. Et subhanallah, on parle jusqu'à maintenant de leur nom. L'imam Nawawi également. Donc, pourquoi toujours regarder l'instant présent? Ça serait bien un moment à nous de dire, j'en ai plus rien à faire de ce qui est en train de se passer, d'avancer dans mon chemin et de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Si mon action est préservée et aimée, alhamdoulilah, si mon action est oubliée mais que mon intention elle était sincère, elle est soigneusement consignée auprès d'Allah et ce qui m'intéresse, c'est la satisfaction de mon Seigneur. Or, de donner trop d'importance justement à tous ces mauvais échos, ben on fera jamais l'unanimité. Donc, next, passe à autre chose. Et faut pas s'attarder là-dedans. Faut travailler. On n'a pas le temps. Il y a un grand philosophe qui disait que, et c'est une loi, hein, j'ai oublié comment ça s'appelait en philosophie ou en psychologie, c'est qu'un mensonge prend 20 secondes et réfuter ce mensonge en prend 20 minutes. Je sais pas moi, 20 secondes, t'imagines, c'est tellement rapide de jeter l'opprobre sur quelqu'un et pour justement répondre à cet opprobre, ça va prendre 20 minutes. Soit tu vas essayer de répondre sur quelque chose, en fait, il n'en a rien à faire parce qu'il savait que c'était un mensonge et donc tu perds ton temps, ou soit tu construis quelque chose en parallèle qui va faire en sorte de élever des gens que lorsqu'ils vont entendre ce type de calomnie, ils vont savoir que c'est n'importe quoi. Bah, moi, je préfère construire plutôt que réparer.
D'accord, c'est très, en effet très juste ce que vous venez de dire, d'autant que lorsque vous parlez justement de travail en fond et d'endurance, ça se dresse en antagoniste de bah, malheureusement tout ce à quoi la société nous appelle, à savoir se mettre en lumière et l'instantanéité finalement. Et pour synthétiser justement tout ce que vous disiez, bah, comment est-ce que vous définiriez en global la dawa?
La dawa, la prédication, c'est une chose qui est extraordinaire. Encore une fois, pour être da'i ou pour faire de la dawa, il y a un moteur primordial, parce que c'est beaucoup de sacrifices. Et je n'ai même pas envie de dire que c'est des sacrifices. Ce ne sont pas des sacrifices, c'est plutôt une consécration. Je ne sacrifie pas mon temps pour Allah, mais je consacre mon temps pour Allah. Et lorsqu'on réfléchit de cette manière-là, que ce n'est pas une perte, mais plutôt un investissement, consacrer son temps, eh bien, c'est facile. Il faut de l'amour. Il faut aimer ce qu'on. Il faut aimer parler aux gens, il faut aimer socialement ce que nous sommes en train de faire, que ce soit l'enseignement ou même le commerçant qui est dans son marché. Il faut aimer les clients, il faut aimer la cuisine, il faut aimer la pâte, il faut aimer les animaux pour le berger, il faut aimer la construction. Lorsqu'on aime quelque chose, eh bien, on dure parce que c'est pas une corvée. Et donc, la prédication n'est pas donnée à tout le monde, l'enseignement n'est pas donné à tout le monde. Le fait de pouvoir apprendre et enseigner n'est pas donné à tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle, je le dis toujours, il faut avoir, pour synthétiser, de l'amour pour ce que l'on fait. C'est pas tout le monde qui va être prédicateur. Parce que tout le monde ne peut pas patienter vis-à-vis des insultes, des quolibets, des railleries ou autres calomnies. Les gens, ils n'ont pas le dos assez large. Mais lorsqu'on a, mashallah, un cap à tenir, un objectif et un amour grandiose pour le Créateur suprême des cieux et de la terre, on avance. Peu importe. Ah, j'ai entendu, ça va. Et deuxième chose qui est très importante, et je ne le dirai jamais assez, pour pouvoir entamer le chemin de la da'wa ou justement de l'enseignement ou d'une chose qui va être pour l'islam et les musulmans, il faut avoir un équilibre. Si on n'a pas d'équilibre dans une femme ou dans une épouse ou dans un époux ou chez des enfants ou dans une famille, ça va être très compliqué. Parce que lorsque nous sommes attaqués de toutes parts, on a besoin d'une sorte de refuge, d'un foyer dans lequel on va se reposer, couper. Et montrer en fait que nous avons en fait nous aussi une existence, que ce n'est pas Mehdi Mag, que ce n'est pas les réseaux qui font notre vie, mais qu'on a des enfants à élever, à éduquer et à instruire, qu'on a une femme à aimer, à honorer, à préserver et à protéger, qu'on a également une vie à pouvoir justement mener. Et le fait d'avoir un foyer équilibré, c'est extrêmement important. Et je finis sur ça. C'est la raison pour laquelle, avant la prophétie, avant que la révélation vienne au prophète, il lui a donné notre mère Khadija, radiallahu anha. Qu'il l'a préservé, qu'il l'a protégé au moment où il a reçu la révélation. On pourrait croire qu'il était fou, qu'il l'a rassuré, qu'il lui a donné la confiance. C'est notre mère. Et il avait un foyer agréable, accueillant, qui lui réchauffait le cœur. Et c'est là, c'est hyper important pour pouvoir justement vaquer à sa mission de vie. Et si on n'a pas ces deux, pour moi, points primordiaux, à savoir cet équilibre, l'amour de la darwa et un équilibre pour pouvoir se ressourcer, ça va être compliqué de pouvoir continuer là-dedans.
Oui, tout comme vous l'avez dit, finalement, on cherche, surtout la société cherche à déstructurer bah, l'unité elle-même de la
Ah
société qui est la
oui,
famille.
c'est normal,
On
ça,
cherche
c'est
à
clair.
déstructurer parce
Mais
que
c'est un autre
sinon,
sujet, ça.
oui, c'est vrai, on s'attardera peut-être pas dessus aujourd'hui, mais c'est vrai que le fait de déstructurer la famille, c'est déstructurer une personne. Nous sommes en quelque sorte nos familles.
Ce n'est pas que la famille, hein, c'est déstructurer la société, parce qu'à l'époque, ce n'était pas simplement le foyer familial, le père, la mère et les enfants, non. Il y avait l'oncle également, lorsqu'il voyait ou même le voisin qui voyait le petit de l'autre voisin qui faisait n'importe quoi, c'était la claque assumée, et en plus, il fallait répéter aux parents. En fait, on appelle ça un hoche, on appelle ça une sorte de clan. La société musulmane est une société, on va dire, pas clanique, mais c'est une société qui englobe toute la société. Les enfants, ce sont les enfants de tout le monde. D'ailleurs, la parole du prophète, alayhi salam, elle est extrêmement claire. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Personne d'entre vous n'aura véritablement une foi complète que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc, cette parole, elle est extraordinaire. L'enfant du musulman, l'épouse du croyant, le grand-père, la grand-mère, tout ça en fait font partie d'un seul et unique corps. L'exemple des croyants dans leur amour réciproque, dans les sentiments qu'ils ont les uns pour les autres, c'est comme un corps. Or, lorsque tu déstructures justement la famille et que tu tends vers l'individualisme le plus exacerbé, mais effectivement, tu détruis toute la société islamique. Et ça, c'est clair, et c'est ce qu'ils veulent. Et c'est la raison pour laquelle il est très important. Et c'est pour ça qu'Allah donne énormément d'importance aux parents, au lien du sang, au point où le prophète qui dit que lorsque tu restes 3 jours sans saluer ton frère musulman, tes actions sont suspendues dans le ciel. C'est incroyable. C'est des choses qui nous montrent en fait que les relations humaines entre croyants sont primordiales pour tenir en fait dans le socle de l'unité. Mais c'est un autre sujet.
En effet, c'est un autre sujet. Pour notre dernière question, justement, je sais comment on va voir, eh bien, justement, ces jeunes qui finalement ne vivent plus forcément cet environnement assez sécurisé où finalement l'islam, ou tout du moins la bonne conduite, est enseignée par tout le monde et par la société, quel conseil final pour clôturer cette interview est-ce que vous donneriez aux jeunes qui vous écoutent et ceux qui, Inch'Allah, ne vous connaissez peut-être pas mais qui finiront par vous écouter, quel conseil leur donneriez-vous finalement pour sortir la tête de l'eau dans cette société où nous sommes toujours concentrés sur des choses qui n'en valent pas la peine?
La première des choses la plus importante pour jeune ou pas jeune, vieux ou pas vieux, musulman ou non musulman, c'est l'instruction. La chose la plus importante qui a été donnée à l'homme, c'est l'instruction. Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte de dire justement dans la sourate le tout miséricordieux, il commence en se définissant comme le tout miséricordieux. Et allama al-Qur'an, il a enseigné le Qur'an. Il n'a pas créé, il a enseigné le Qur'an. Le premier verset, c'était Iqra. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que l'instruction, la connaissance est la chose la plus importante qui soit. Parce que grâce justement à l'ignorance est une maladie et son remède est la connaissance. Et la stupidité n'a pas de remède malheureusement. Si tu es ignorant d'une chose, tu dois apprendre. Et sache que la nature a horreur du vide. Si tu n'as pas rempli ton cœur, ton cerveau par des données nobles, instructives, utiles dans ta vie de tous les jours, eh bien c'est le faux, c'est la passion. C'est la perversité qui remplira ton cerveau et ton cœur. Et donc la nature a horreur du vide. Et il est primordial que dès notre jeune âge, nous devons tendre vers l'instruction. Et rappelle-toi, lorsque j'ai parlé de mes enfants tout à l'heure, il faut les élever, leur renseigner et les instruire. C'est très important, ce sont des obligations. Parce qu'une personne qui va s'instruire, c'est une personne qui ne sera pas manipulable. C'est une personne qui va comprendre les choses. C'est une personne à qui on ne peut pas faire à l'envers parce qu'il comprend, il connaît déjà les choses. Ce n'est pas de l'ignorance. Or, pour pouvoir s'instruire, c'est auprès de gens bons et fiables et de transmission orale, d'où le fait que les réseaux sociaux ont détruit un grand pan de notre communauté. Et donc, aller s'asseoir auprès de gens bons et fiables, reconnus pour leur piété et pour leur savoir, parce qu'eux-mêmes, ils ont appris auprès d'un savant, que ce savant a appris d'un autre savant, des compagnons, des tabi'in d'abord, des compagnons du prophète, c'est une chaîne de transmission qui est parfaite, qui est nickel. Et on appelle ça les savants ar-rabbaniyoun. Ce n'est pas des savants, simplement des sommités de savoir, mais c'est des savants qui éduquent, des savants éducateurs, ar-rabbaniyoun. Parce que avant de pouvoir mettre, on va dire, le savoir dans le cœur ou dans le cerveau, ils font déjà mal. Ils éduquent. Dégage, je ne veux pas te voir aujourd'hui. Pourquoi tu as réfléchi comme ça? Mais pourquoi tu as parlé comme ça? Ils leur font énormément de mal pour voir s'ils vont patienter selon ces différentes difficultés, parce que ils les poussent dans leur retranchement. Et s'ils sont patients et ils acceptent d'écraser leur ego pour continuer à essayer de recevoir la science, eh bien là, ils ont lavé, ils ont récuré le cœur pour pouvoir bi-idhnillah ensuite mettre le savoir. C'est très, très important. Wallahu a'lam.
Très bien, je sais comment va pour l'ensemble des conseils que vous nous avez donnés. J'encourage également tous les jeunes à essayer, Inch'Allah, de suivre vos conseils et qu'Allah nous permette de devenir des membres solides de notre communauté et nous
Amin,
permette de leur
Amin,
élever.
Amin.
Amin.
que ce type de discussions sont des discussions extrêmement utiles et profitables pour la jeunesse. Parce que je pense qu'il y a une mine d'informations des plus profitables pour les jeunes. Ne pas lâcher l'affaire par rapport à ça. Barakallahu fikoum.
Inch'Allah, barakallahu fikoum. Et c'est donc la fin du 5e épisode d'Éthique Média. Nous espérons vous retrouver très vite, Inch'Allah. Salam alaikum.